de lire avec moi, dans premièrement dans le livre du Cantique des Cantiques, le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 1 et simplement le verset 3. On va introduire ce message par trois références bibliques. Le Cantique des Cantiques, le chapitre 1, le verset 3, c'est donc la Sulamite, la bien-aimée, qui exprime ces paroles. « Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. » Je vais retenir en particulier cette phrase « ton nom est un parfum qui se répand. » On va lire aussi dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. La lecture sera un peu plus longue dès le premier verset. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et pour terminer, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, simplement les deux premiers versets, Hébreux, chapitre 12. Et le verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à son perfectionnement, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. » Ayant les regards sur Jésus. Les textes que nous venons de lire, frères et sœurs, ensemble, ont un point commun. Ils convergent tous vers un nom. Un nom. Dieu le Père a donné à Jésus un nom qui est souverainement élevé, qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais ce matin, en ce premier culte 2024, nous inviter tous à replacer au centre de notre foi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et j'aimerais ce matin suivre un plan très simple, un plan très simple, en m'appuyant sur l'expression de la Sulamite. C'est poétique, mais c'est tellement vrai aussi. Lorsqu'elle va parler du nom de son bien-aimé, elle va dire « Ton nom est un parfum qui se répand ». Et c'est le plan de ma prédication, tout simple ce matin, en trois parties. Ton nom, le connaître, le découvrir ou le redécouvrir, connaître sa valeur, connaître les bénédictions qui sont enfermées dans ce nom, connaître son nom, est un parfum. Apprécier ce nom comme on apprécie un parfum. Et puis, un parfum qui se répand. La diffusion de ce nom, la diffusion, la nécessité impérieuse que ce nom soit diffusé, répandu. C'est le plan de mon message ce matin. Et bien évidemment, frères et sœurs, bien évidemment, tout commence par cette première expérience fondamentale, connaître le nom de Jésus. Parce que connaître le nom, c'est connaître la personne. Il y a dans l'Écriture plusieurs exemples de personnages très particuliers qui, dans une circonstance spéciale, ont interrogé Dieu sur son nom. Vous connaissez l'épisode de Moïse dans son désert, il voit de loin un buisson ardent qui ne se consume pas, il est intrigué, il s'approche et il entend Dieu l'interpeller, le mandater pour une mission à laquelle il n'osait même pas penser tellement elle était d'envergure. Et à un moment donné, Moïse va dire à Dieu, mais quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Car si je vais en Égypte dire que tu m'as envoyé pour les libérer, ils vont m'interroger et ils vont me demander le nom de ce Dieu qui t'envoie. Quel est ton nom ? Lors d'un séjour à Athènes, l'apôtre Paul se promène, il explore la ville et il voit par toute la ville des expressions de dévotion polythéiste, païenne. Alors, il rassemble à l'Aréopage la foule des promeneurs. Et c'était très très courant d'aller écouter des discoureurs, des philosophes. Alors les Athéniens se sont dit, tiens, il y a un philosophe de plus, on va l'écouter, hein, on va l'écouter. Et Paul leur dit, en me promenant dans votre ville, ô Athéniens, eh bien, je me suis aperçu que vous aviez une vie de dévotion très très riche, puisque j'ai constaté toutes les stèles, tous les autels, tous les monuments que vous avez dédiés à tous vos dieux, vos déesses, vos demi-dieux de la mythologie. Et j'ai même remarqué une stèle où vous avez inscrit à un dieu inconnu, qui était un aveu sincère que, malgré tous les dieux imaginaires que les Athéniens s'étaient donnés, il y a quelque chose dans leur cœur, un vide, une question sans réponse, un besoin non satisfait. Ils avaient conscience qu'il leur manquait de connaître le vrai Dieu. Alors comme on ne le connaît pas, on va quand même lui faire un monument et on va inscrire à un Dieu inconnu. Mon frère, ma sœur et chers amis qui nous avez rejoints ce matin, le besoin impératif, prioritaire, c'est de connaître Dieu. De le connaître. Jésus dira, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la première urgence et ma prière. Oh, combien ce serait merveilleux que quelqu'un parmi nous commence l'année 2024 en commençant une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Combien ce serait merveilleux que ce matin, quelqu'un puisse vivre l'expérience de connaître le Seigneur. Alors du buisson ardent, Dieu décline son nom. Mon nom, c'est Je suis. Que nous transcrivons par l'Éternel. Je suis hier, aujourd'hui, pour toujours, je suis. Tu leur diras, le Dieu qui s'appelle Je suis m'envoie pour vous libérer de la férule de Pharaon. Bien plus tard, le futur père de Samson, Manoac, va être visité par le Seigneur qui lui annonce la naissance de cet enfant avec des prescriptions particulières. Et Manoac, émerveillé, bouleversé de ce qu'il est l'objet d'une grâce de la visitation de Dieu, va dire, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? J'ai un impérieux besoin de connaître ton nom, parce qu'en connaissant ton nom, je vais te connaître. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est la réponse qui lui est faite. Il est merveilleux. Bien plus tard encore, sur le chemin que ce furieux persécuteur des chrétiens empruntait jusqu'à Damas, Saul de Tarse, un extrémiste religieux dont il est dit qu'il respirait la haine à l'encontre de tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus. C'était le critère, la raison de son agacement insupportable. Il ne pouvait pas supporter le nom de Jésus. Et tous ceux qui invoquaient ce nom lui suscitaient une démangeaison incontrôlable. Et il était en route parce qu'il avait appris par ses services secrets qu'il y avait des disciples de ce nom, Jésus, qui se réunissaient. Et avec tout un cortège, il était en route et voici, et vous le savez fort bien, sur le chemin de Damas, en plein jour, une lumière brille, pas naturelle, subitement, qui éblouit Saul de Tarse. Il en est désarçonné et il entend une voix l'interroger. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et immédiatement, l'expression de Saul, qui es-tu, Seigneur? Qui? Je ne te connais pas. Il me manque de te connaître. Qui es-tu, Seigneur? Et la réponse, un nom. Je suis, ça me rappelle le je suis du buisson ardent. Je suis Jésus que tu persécutes. En vous expliquant ces choses, mes bien-aimés, je me souviens des premiers cultes auxquels j'assistais à 16 ans et demi et où le Saint-Esprit, par la prédication de l'Évangile, était en train de me convaincre, moi l'adolescent, de me convaincre que par ma manière de vivre, de parler, d'agir, de réagir et de me comporter, en quelque sorte, pendant des années, par mes péchés, j'étais comme un persécuteur, moi aussi, que j'avais attristé, affligé, déshonoré le Seigneur qui pourtant m'aimait d'un amour éternel. Et en prenant conscience de ces choses, immédiatement, la repentance, spontanément est venu. Et je peux dire que c'est là que j'ai connu le nom de Jésus. Et par son nom, sa personne. La Bible nous dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. On ne peut pas connaître le Seigneur par de l'analyse intellectuelle, par des réflexions philosophiques, par des démarches même religieuses, traditionnelles. L'homme s'est donné plusieurs démarches pour répondre à son besoin d'éternité. Mais on ne peut pas connaître le monde avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Je ne pourrais pas vous présenter une équation qui débouchera sur Dieu. Notre cerveau, même pour celui qui a le plus développé d'entre nous, sera toujours trop petit pour assimiler ce Dieu éternel. On ne peut pas connaître Dieu par des démarches cérébrales, rationnel, on connaît le Seigneur par une révélation. Et je bénis Dieu de ce qu'il veut nous révéler qui il est et nous révéler le nom de son Fils. Vous vérifierez dans vos Bibles en rentrant à la maison. Le proverbe 30 dit ceci. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Agur, qui est l'auteur de ces paroles, bien avant la naissance du Sauveur, nous montre que connaître Dieu est indissociable de connaître le nom de son Fils. Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Et toute la Bible est unanime pour affirmer qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés, que Dieu soit béni. Le nom de Jésus. Qui ne se connaît pas par une simple information, par une instruction, mais qui se connaît par une révélation. Tu peux connaître la Bible par cœur et cependant, ne pas connaître Jésus dans le domaine personnel, intime, avec une relation, plus qu'une relation, une communion. L'apôtre Paul écrivait à une église et disait, je le dis à votre honte. Alors, attention, l'église d'Aubagne n'est pas visée. Hein. C'est une église du temps de l'apôtre Paul. Je le dis à votre honte, certains parmi vous ne connaissent pas le Seigneur. Ils étaient occultes, chantaient des cantiques, ils s'appelaient frères, ils s'appelaient sœurs, ils pouvaient réciter des versets de l'Ancien Testament, des références multiples, mais Paul avait discerné qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel, c'est connaître le Seigneur. Connaître Christ par une révélation de sa personne. Le connaître en connaissant son nom, je connais sa personne. Tous les enseignements de Jésus dans les évangiles convergent vers cet objectif. Chaque fois que Jésus dit « je suis, je suis, je suis », il se révèle, gloire à Dieu. Quand il dit « Je suis la porte des brebis », Je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis. Chaque fois qu'il enseigne de la sorte, il cherche à se révéler, à se révéler. Vous savez, on peut manger les poissons multipliés, les pains multipliés miraculeusement et ne pas connaître Jésus. Ils ont été des milliers, ils ont vu. Vous savez, quelquefois des gens nous disent, moi si je vois un miracle, je croirais. Ils ont vu en direct, en live. Quelqu'un parle anglais ici? Ils ont bien compté 1, 2, 3, 4, 5 miches, 1, 2 poissons. Et ils ont vu Jésus multiplier, multiplier, remplir de gros paniers très profonds. Et ils ont été les spectateurs, mais aussi les bénéficiaires, parce que ça les a remis d'aplomb, n'est-ce pas? Ils ont vu. Ils ont vécu, ils ont observé, ils ont constaté, mais ils n'ont pas connu. Parce qu'à un moment donné, en écoutant l'enseignement du Christ, tous vont l'abandonner, sauf les 12. Et Jésus de leur dire, et vous? Vous ne voulez pas m'abandonner, vous aussi? Et Pierre a une parole remarquable. Nous, Seigneur, c'est différent. Nous, à la différence des autres, malheureusement, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre alors irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle différence, mes frères et mes sœurs, lorsque, par une révélation de Christ, je suis éclairé, je suis convaincu, je suis bouleversé, transformé, libéré, changé, pardonné, sauvé. Je nais de nouveau, je deviens enfant de Dieu. Je sais que mon nom, même s'il est un peu long, est écrit sur le livre de vie. Je sais qu'un jour, comme le dit ce vieux chant, mes yeux verront Jésus. La révélation, Seigneur, que ce matin, dans tous les cœurs où il y aurait besoin d'une révélation de Jésus, il se produise la révélation. Que tu puisses le connaître, le rencontrer. Je parlais un jour à un jeune couple, je leur parlais de ce Dieu d'amour, ce Dieu de miracles, ce Dieu vivant, ce Sauveur ressuscité. Et le jeune homme était enthousiasmé par ce message et son épouse, c'était vraiment tout le contraire. Elle était sclérosée d'incrédulité. Elle m'écoutait avec un rictus comme ça, la banane à l'envers. Elle me disait, j'arrive pas à le croire. Ça me semble tellement impossible. Alors je lui ai dit, écoute, ce que je te conseille, si tu es sincère dans ta démarche, c'est d'adresser à Dieu la prière de l'incrédule. C'est-à-dire, Dieu, si c'est vrai ce que le pasteur nous explique, moi je veux bien le vivre, mais fais qu'il se passe quelque chose. Elle m'a dit, je vais le faire. Alors là, elle a relevé le défi, hein. Je ne vous cache pas que j'ai tremblé un peu. Plusieurs jours passent et le vendredi soir, réunion habituelle, je les vois arriver. Tous les deux, c'était des bikers, vous savez. Ils avaient le costume en cuir avec les clous, les Santiago, c'était des rockers. C'était impressionnant. Quand ils arrivaient, c'était en plus tous les deux grands, large comme des armoires trois portes. Et ce vendredi, je les vois arriver. Elle, la banane avait été inversée de sens, vous voyez. C'était la banane comme ça. Elle est venue me voir, elle ne m'a même pas dit bonsoir, comment ça va. Elle m'a dit, pasteur, ça a marché. Je dis, écoute, explique-moi. J'ai fait comme vous m'avez conseillé. Lundi matin, j'ai dit, Dieu, si tu existes, il n'y a rien qui s'est passé. Mardi, j'ai redit. Et hier, jeudi, au moment de faire la prière, voilà, je n'ai pas pu la terminer. Tout mon être a été envahi d'amour. La présence de Jésus m'a inondé. Je me suis mis à pleurer, mais abondamment, dans ma chambre, toute seule. Et je sais qu'il est vivant. Vous savez quoi ? Cette expérience, ça remonte à une trentaine d'années. J'ai encore des nouvelles aujourd'hui de ce couple qui marche avec le Seigneur. Une révélation. Une révélation. Dieu veut te révéler Christ, ton sauveur, ton Seigneur, ton rédempteur, ton avocat auprès du Père. Connaître le nom, ton nom, oh ton nom. Alors les filles, elles disaient à la Sulamite, mais qu'a-t-il de plus ? Pour les filles, elles ne comprenaient pas, mais elles leur répondaient, mais mon bien-aimé, il est le plus beau d'entre 10 000, parce qu'elles le connaissaient. Quelle différence. Deuxième partie de ce message, ton nom est un parfum. Un parfum. Appréciez le parfum. Un jour, j'arrivais là et je saluais un frère, je lui fais la bise et il me regarde, il me dit, habit rouge de Guerlain. Effectivement, je m'étais mis un peu de parfum et vous voyez, une odeur, un parfum, une identité. Apprécier le nom de Jésus et apprécier la personne et la communion avec Jésus comme on apprécie un parfum de valeur. Un parfum de valeur. On a eu l'occasion avec mon épouse et les enfants, 2 ou 3 fois, de passer quelques jours de vacances en été dans la ville de Grasse. C'est la capitale du parfum, hein. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé de me renseigner, d'en savoir un peu plus sur la confection, comment on s'y prend. Alors, les experts, on les appelle l'aînés. Hein. C'est pourtant pas des Arméniens, mais on les appelle comme ça. Ils ont une capacité de délicatesse, de finesse. Et ils sont vraiment très forts dans l'association de certaines essences, etc. Et la personne qui me renseignait me disait, vous savez, un parfum de qualité, un vrai parfum, il est composé de 3 notes. C'est le vocabulaire dans le domaine du parfum. Le parfum a 3 notes. 3 notes. Et elle me disait, vous savez, tous les parfums de basse gamme, de pacotille que vous pouvez trouver à 8,50 €, là, c'est des parfums qui sont vraiment très, très pauvres, qui n'ont qu'une seule note. Alors je leur dis, mais c'est quoi ces notes? Expliquez-moi, donnez-moi un peu de précision. Et elle me dit, la première note, on l'appelle la note de tête. La deuxième note, on l'appelle la note de cœur. Et la troisième note, on l'appelle la note de fond. Bon, et c'est quoi ces notes de tête, de cœur, de fond? Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, la note de tête, ce sont des composants volatiles qui ont un impact immédiat sur notre odorat. Donc, premier impact. Mais c'est volatile. Voilà, ça donne un premier aperçu immédiat. Alors, on sait que c'est, par exemple, agrumes, boisés, épicés, plusieurs catégories. C'est la note de tête. Ça sent bon, mais ça ne dure pas. Puis, il y a la note de cœur. Là, ce sont des composants qui donnent le caractère central, je dirais l'ADN du parfum, sa dominante, c'est, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? C'est l'identité du parfum, c'est l'identité du parfum, la personnalité du parfum. Et puis la troisième note, c'est la note de fond. Sont des composants très peu volatiles qui se fixent sur l'épiderme, assurant ainsi la tenue du parfum sur la peau d'une manière durable. Durable. Quelquefois, 3 jours après, 4 jours après, vous enfilez un pull et vous dites « Ah tiens, je me souviens, je m'étais mis un peu de ce parfum, n'est-ce pas ?» ça fixe. C'est la note de fond. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous parler du parfum merveilleux et inimitable qu'est le nom de Jésus. Avec ces 3 notes, parce que ce parfum est d'une qualité inégalable. Ne vous fiez pas aux parfums de pacotille qui vont vous donner un impact émotionnel, immédiat, mais qui ne va pas durer, ça ne va pas durer. Et je dirais que en parlant du parfum du nom de Jésus, la note de tête nous parle de sa puissance. La puissance. Il y a dans le nom de Jésus, mes bien-aimés, une puissance miraculeuse capable d'engendrer des délivrances, des guérisons. Vous savez, lorsque Jésus dit « tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », c'est la première dimension que j'aimerais présenter ce matin s'agissant du nom de Jésus. Le nom de Jésus est imprégné d'une puissance, la puissance guérissante, libératrice. Et pendant que tu écoutes là ce matin ce message, tu peux recevoir la guérison. Tu peux recevoir une mise au large dans ton âme étreinte comme par un étau d'angoisse. Le nom de Jésus est puissant. Amen. Lorsqu'il est utilisé par des hommes, par des femmes qui le connaissent, le nom de Jésus est puissant. Ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent le prononcer par mimétisme, par automatisme, ils sont à plaindre. Comme ces 4 fils de Séva qui ont voulu imiter l'apôtre Paul, ils ont voulu délivrer un démoniaque. Au nom de Jésus que Paul prêche, le démon leur a dit « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous êtes qui ?» Et ils sont tous partis avec des vêtements déchirés, ils avaient des hématomes partout. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Hein. Ce n'est pas un sésame ouvre-toi. Le nom de Jésus ne peut pas être prononcé d'une façon détachée. Mais le nom de Jésus, lorsqu'il est prononcé par des hommes et des femmes qui le connaissent et qui, par la foi, font valoir son autorité, alors Jésus dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quelque peu améliorés ? Hein ? Dites-moi. Ils seront comment ? Ils seront guéris, alléluia ! Les malades seront guéris. S'ils sont malades physiquement, ils seront guéris physiquement. S'ils sont malades affectivement, psychologiquement, s'ils ont des blessures qui tardent à se cicatriser, ils seront guéris intérieurement. Il y a des affects malades, il y a des affects qui ont besoin de guérison. Et ce matin, au nom de Jésus, recevez la guérison. Soyez consolés. Soyez libérés de vos points douloureux. Que tous ceux qui ce matin parmi nous ont l'âme en souffrance connaissent le nom de Jésus dans ce premier axe, la note de tête, dans sa puissance, dans sa puissance. Quand j'ai vu maman, quand j'ai vu maman rentrer à la maison après son premier culte, mes amis, elle, que nous connaissions comme étant une femme détruite, plongée dans une dépression avec des idées suicidaires, des actions suicidaires même, s'enfermant dans sa chambre un, deux, parfois trois jours, sans ouvrir les volets. Et quand je vois ma mère rentrer de son premier culte, rayonnante, métamorphosée, proclamant cette bonne nouvelle, je l'ai trouvé, je sais qu'il est vivant, je sais qu'il m'aime, il m'a libéré. En un culte, mes amis, Jésus a fait de ma mère une nouvelle femme. Et j'étais au premier rang, moi, pour constater à quel point c'était grave. Son mal était gravissime. Tous les recours auprès des psychologues et même quelquefois de personnages sombres comme des marabouts, des gens pas recommandables, tout cela ne faisait que la plonger encore plus dans une autodestruction qui semblait irrémédiable, irrémédiable pour les hommes, mais tout est possible à Dieu. Le nom de Jésus a un pouvoir de guérison et de délivrance. L'état dans lequel tu es depuis peu ou depuis longtemps n'est pas une fatalité. Il y a dans le nom de Jésus le pouvoir de ta guérison. Reçois la guérison, sois béni. La note de cœur, en parlant du parfum qu'est le nom de Jésus, eh bien, m'amènera à parler de l'amour de Jésus, de la compassion de Jésus, de la douceur de Jésus. Ton roi vient à toi plein de douceur. Le parfum qu'est le nom de Jésus me révélera ses sentiments profonds, ses intentions profondes. Moi, quand je le vois se tourner vers cette pauvre maman et lui dire « Ma fille, ne pleure pas », c'est le cœur de ce merveilleux parfum qui se révèle à elle. Et puis il fait arrêter le cercueil. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le jeune homme est ressuscité. Quand je le vois se tourner vers cette femme que la horde furieuse des légalistes était prête à lapider, et quand je vois Jésus se tourner vers elle et lui dire « Ils sont passés où ?» Tous ceux qui t'accusaient, ne s'est-il trouvé personne pour te lapider? Non, Seigneur. Eh bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et je suis sûr que ce ne pêche plus a libéré la femme de son existence décousue et ça a fait de cette femme une nouvelle femme, transformée, victorieuse. Libre du péché. C'est l'amour de Jésus. Moi, je comprends toujours pas, ça fait 52 ans et j'ai toujours pas compris, mais pourquoi Dieu m'a aimé? Tu as compris, toi? Tu as compris pourquoi? Comme ce vieux cantique le dit, je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'il l'a fait et qu'il le fait encore. Par une révélation de ce parfum, je découvre la note de cœur, les sentiments de Jésus, les compassions, les entrailles de miséricorde du Seigneur Jésus. Même à l'égard d'une ville revêche, Jésus va pleurer. J'espère qu'il ne pleure pas sur quelqu'un parmi nous ce matin, en constatant des dispositions réfractaires. J'espère qu'au contraire, nous tous, nous avons ce matin des cœurs bien disposés. Amen. Des cœurs hospitaliers pour accueillir l'Évangile et pour accueillir le Christ lui-même. Et puis, la troisième note, c'est la note de fond. La note de fond. Oui, la note de tête, c'est la puissance, la transformation, c'est la guérison, c'est le miracle, c'est merveilleux. Mais je dis une chose, si toutes les personnes qui, dans ce lieu, ont été miraculées un jour par Jésus étaient là, mes amis, ben, je voudrais faire un nouveau bâtiment, peut-être même deux. Ils se sont arrêtés à la note de tête. Mais il y a celle du cœur et il y a celle du fond. Ce sont des éléments pas volatiles qui m'imprègnent définitivement, qui imprègnent mon être psychologique, psychique, profondément, qui imprègnent et qui bénissent ma personnalité, gloire à Dieu, qui me transforme de l'intérieur. Je vais en reparler tout à l'heure un peu plus explicitement. C'est cette dimension de stabilité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, on en a parlé, d'amour, le cœur, et aussi de sagesse. Et j'aimerais dire ici que la volonté de Dieu, c'est que tu sois imprégné au plus profond de toi de cette maturité, de cette stabilité. Si quelqu'un parmi nous se reconnaissait dans un être versatile, réactif, trop réactif, influençable, peu fiable, si tu manques de stabilité, la révélation du nom de Jésus va te permettre de bénéficier de cette influence stabilisante. Hier soir, je disais aux jeunes que leur jeunesse est une période très utile, presque fondamentale, parce que c'est une période où Dieu travaille à les construire intérieurement. Et Dieu veut te construire solidement, il veut te stabiliser, il veut faire de toi un être apaisé, un être qui considère les aléas du quotidien avec la sérénité de la foi. Amen. Un être dont les émotions n'iront pas tous azimuts, mais resteront sous l'influence de la foi et des promesses de Dieu. Voilà, appréciez ce parfum. Et puis je termine ce message. Ma troisième partie, c'est diffuser ce parfum. Ton nom est un parfum qui ne reste pas dans une jarre en argile, dans un placard. À quoi ça servirait? Ton nom est un parfum qui se répand. La diffusion. Dieu nous a donné le nom de Jésus pour que ce parfum céleste se diffuse et se répande. Et j'aimerais dire ceci, qu'il se répande d'abord en chacun de nous, qu'il se répande ensuite dans nos familles, couples et enfants, qu'il se répande ensuite dans l'Église. Amen. Et qu'il se répande dans notre génération, dans notre société. Voici les quatre dimensions où Dieu veut une diffusion abondante du merveilleux parfum qu'est le nom de Jésus. Oui, oui, la Bible me dit, on l'a lu dans Philippiens, eh bien, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce parfum merveilleux veut envahir tout mon être et l'inonder des sentiments de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte? Vous savez, quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce miracle extraordinaire et spectaculaire, c'est que ces 120 personnes ont été envahies, inondées de Jésus-Christ. Et ce parfum magnifique a transformé leur être intérieur. Avant la Pentecôte, c'était qui ces gens-là? c'était des gens colériques et intolérants qui demandaient l'autorisation à Jésus de leur permettre de faire descendre le feu sur les Samaritains. C'était des terroristes. Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il ne faudrait pas qu'il y ait des terroristes parmi nous. Il y a des pseudos, des prétendus chrétiens qui seraient prêts à envoyer, voyez, comme Zeus, d'envoyer ses tonnerres, là, comme ça. Mais il y en avait dans les 120 qui étaient comme ça, avant la Pentecôte. Puis il y avait ce fameux Pierre, le fils de Jonas, qui était gangréné par la culpabilité d'avoir trahi, renié Jésus. Trois fois. Moi, j'imagine sans peine l'accusateur le pointer lourdement en disant « Rappelle-toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es indigne, tu as renié ton maître, l'accusateur !» Voilà, c'était des gens comme ça. C'était des gens. C'était qui ces gens-là? C'était des gens gangrénés par l'esprit de compétition. Un jour, ils ralentissent le pas, là, tous en groupe, ils ralentissent, ils laissent Jésus aller de l'avant, pour avoir une petite discussion entre eux. C'est qui le plus grand parmi nous? Ils parlaient entre eux de savoir qui était le plus grand. Ben, Pierre a dit, ben, c'est moi, je ne comprends pas la question. Et un autre a dit, ben, ça ne va pas, toi, tu es impulsif, tu démarres au quart le tour, c'est moi. Qui est le plus grand parmi nous? On se pose la question ici à Aubagne, qui est le plus grand parmi nous? Moi, je ne me la pose pas parce que parmi nous, le plus grand, c'est Jésus. Et nous, nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Gloire à Dieu, Mais c'était des gens comme ça, l'esprit de compétition. Et puis la Pentecôte vient, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Autrement dit, leur personne ressemble à un récipient que Dieu remplit, il diffuse, il répand, il remplit de parfum du nom de Jésus, du caractère de Jésus, et ces gens intérieurement sont délivrés de la culpabilité, ils sont délivrés de leur violence naturelle et de leur intolérance rigide, ils sont délivrés de l'orgueil et de l'esprit de compétition, ils sont nettoyés, guéris, libérés, transformés, et quand ils sortent de la chambre haute, ils sont différents. Parce que en eux, le parfum s'est répandu. La preuve, c'est que maintenant, Pierre et Jean marchent ensemble. Les deux concurrents, Pierre et Jean marchaient ensemble. Oh, ça réjouit le Seigneur. Est-ce qu'on marche ensemble? Vraiment? On marche ensemble, d'un même cœur, d'un même pas. On forme qu'une âme. Alléluia! Une vision, une seule motivation, la gloire de Jésus, le salut des âmes, l'édification de l'Église. On marche ensemble. Pierre et Jean marchaient ensemble, mais mes amis, c'est un miracle. C'est un miracle, et si Dieu a fait ce miracle au premier siècle, il peut le faire au 21e. Amen. Je veux sonder mon cœur, et je t'invite à faire de même. Je veux sonder mon cœur pour y chercher peut-être un élément de discordance envers un frère, envers une sœur. Je vais vous dire une chose. On fait ça en toute simplicité. Une année, à la fête de la musique, à Nîmes, notre chorale se produisait sur une grande place de la ville. Comme chaque année, depuis des années, on avait une très très bonne chorale avec un répertoire de beaux cantiques d'évangélisation. Il y avait des témoignages, des cantique magnifique, tout était en place, il y avait du monde assis sur les bancs et les chaises qu'on avait disposés, et j'étais là, parmi la foule, et la chorale démarre un cantique, et dans ce cantique, il y avait un solo, une choriste devait faire un solo, aux paroles tellement importantes, et quand elle a fait son solo, les deux frères à la sono avaient oublié de mettre le micro. Donc, on n'a rien entendu. Et je vous le dis, frères et sœurs, pour ma plus grande honte, intérieurement, là, à l'intérieur, c'était pas un bon parfum, intérieurement, je me suis dit, c'est des incapables. C'est pas possible. Qui c'est qui m'a donné ces deux lascars ? Intérieurement, j'étais en colère contre eux. Mes lèvres n'ont rien prononcé. Je n'ai émis aucun bruit audible par mon entourage, mais Dieu l'a entendu. On a fini le concert, on a rangé les bancs, les chaises, on est rentré. Le lendemain dimanche, il y a le culte. J'arrive et vraiment, je sens dans mon cœur vraiment un message qui brûle dans mon cœur. Je sens que c'est vraiment la parole de Dieu. Il y a des cantiques, etc. Et arrive le moment de la Sainte Cène. Et là, mes amis, alors que les frères préparent, le Seigneur me dit, soit tu te lèves maintenant, tu vas voir ces deux frères, tu leur demandes pardon, soit tu ne prends pas la Sainte Cène dans l'état où tu es. Waouh ! Personne n'avait entendu. Dieu l'avait vu dans le secret de mes pensées. Et moi, je voulais prendre la Sainte Cène. Je me suis levé. J'ai gentiment été sollicité sur l'épaule les deux frères. Est-ce que je peux vous voir 2 minutes ? On est sorti de la salle de culte, on est monté à l'étage, c'était dans l'ancienne salle de Nîmes, et là sur le palier en haut de l'escalier, je leur ai raconté la chose. Et je leur ai dit que je le regrettais sincèrement, et que j'étais très honoré et très heureux de pouvoir servir Dieu avec eux. Je les ai pris dans mes bras. Ils sont mis à pleurer, mais moi, mon âme a été remplie de la joie de l'Éternel, de la joie du Seigneur. On est descendu et j'ai pris la Sainte Cène. Quelle victoire ! Mais il n'y a pas de honte à demander pardon. Dirige tes yeux en toi-même et regarde s'il n'y avait pas un facteur de discordance, de dysfonctionnement, de perturbation dans ta communion fraternelle. Que sais-je ? Et ne reste pas avec ces points de crispation, de blocage. Ne reste pas dans cette tristesse dont Dieu veut te dégager le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'est maintenant. Amen. Quelle victoire de demander pardon et quelle victoire d'exercer le pardon. Et de l'exercer avec autant d'abondance que le Seigneur lui-même l'exerce pour nous. Que Dieu soit béni. Ce parfum a transformé ses 120 disciples. Chaque fois que le parfum de Christ inonde l'intérieur, il engendre une transformation. On ne voit plus l'église pareille, on ne voit plus le pasteur pareil, on ne voit plus le frère un tel, la sœur une telle, de la même manière. On est transformé, nos yeux sont changés, nos sentiments sont changés, les sentiments de Jésus viennent régner en nous, que Dieu soit béni. Qui est-ce qui va dire amen à ça ? Amen ? C'est en nous. Et puis, c'est aussi dans notre cellule familiale. Moi, je crois que nos familles sont appelées à évoluer, j'allais dire à nager, dans la bénédiction du Seigneur. Qui le croit ? Oui ? Amen ? Gloire à Dieu ? Dieu veut que la paix du ciel, l'amour de Christ, l'harmonie, l'épanouissement règnent dans nos maisons. C'est la volonté de Dieu. Et c'est très certainement ce que vous vivez sans aucun problème. Je pense que dans la réalité, malheureusement, on a notre chair, ses soubresauts, ses réactions parfois incontrôlables. Il y a nos désaccords, parfois nos empoignades, nos vexations, les paroles dures, lâchées trop vite. Il y a tellement d'occasions, eh bien, de venir perturber la météo familiale. Ça va la météo ? Imagine la carte, non pas de France, mais la carte de ta famille. Est-ce qu'il y a un grand soleil ? Ou bien est-ce qu'il y a des trucs qui représentent la foudre ? Des nuages sombres, lourds et très très menaçants, des vents à 130 km/h, quelle est la météo chez toi ? En tout cas, Ce que Dieu veut, c'est que ta météo familiale reste parfaitement sereine, jouissant de ce soleil de justice et baignant dans l'amour de Dieu. Amen. Et quand c'est le cas, les personnes qui viennent nous visiter sont frappées intérieurement. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Cette maison, elle a quelque chose de particulier. C'est quoi ? Les tapisseries ? Non ? C'est quoi ? C'est la moquette ? Non ? Mais il y a quelque chose d'indéfinissable, mais de très très fort que je ressens. On se sent bien. On se sent bien. Amen. Mettons toute notre vigilance, frères et sœurs, à préserver la météo de notre espace familial. Et si la météo se charge, ne mettez pas longtemps, parce que quand ça se charge, après ça se décharge et ça fait des dégâts. Donc ne mettez pas longtemps, mais allez, expliquez-vous respectueusement, pardonnez-vous, nourrissez votre amour mutuel et maintenez un bon climat dans l'espace familial. Que Dieu bénisse vos maisons. Et par ce terme, je parle de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Vous avez peut-être dans certaines familles 3 générations, voire 4. Eh bien, que chaque génération soit imprégnée de la bénédiction de Dieu et qu'il y ait un échange mutuel de bénédictions, que les grands-parents soient en bénédiction pour les petits-enfants, que, enfin, voilà, hein, que le Seigneur règne. En moi, dans ma famille, dans notre église, le parfum veut se répandre dans l'église aussi, puisque vous savez, quand Marie de Béthanie a brisé son vase d'albâtre et a répandu son parfum de nard pur, il y en avait pour de l'argent, elle a répandu sur Jésus, la Bible nous dit, la maison en fut remplie. Gloire à Dieu. Et je prie pour que l'église en soit remplie. Gloire à Dieu, hein. Qu'il y ait cette simplicité, cette paix, ce respect, je dirais naturel, spontané. Alléluia, cette harmonie divine. Amen. Et que, bien sûr, je termine, que ce parfum se répande dans notre société. La parole de Dieu dit ceci, quel merveilleux verset. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. En tout lieu, même à Lidl et à Intermarché, partout, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Tu es appelé à être un diffuseur de parfum. Amen. Alors, un diffuseur, ça se recharge, parce que quelquefois, on a donné, puis on fait pchit, mais il n'y a que de l'air qui sort. Alors, il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Est-ce que quelqu'un pourrait dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux faire le plein de ton parfum afin d'être un bon diffuseur. Je veux diffuser des paroles de grâce à la place de clameurs, d'amertume et de réparties acerbes. Je veux plutôt diffuser le beau nom de Jésus, le parfum de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour qu'il fasse de nous